Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux, Paris, Delhi, Canberra, l'Indo-Pacifique.
C'est ça, et que devient l'Australie pivot stratégique de cet axe et qui vient contre toute attente de ne pas changer de main ou de couleur politique lors des élections fédérales de samedi. La coalition libérale conservatrice est confirmée, son leader Scott Morrison fortifié, et ce vote épargne donc à l'Australie un sixième Premier ministre en une décennie, mais pour une apparente stabilité peut-être. Voyons ça avec vous, David Camroux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes chercheur associé aux séries spécialistes de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie dans cet Indo-Pacifique. Alors, c'est vrai que c'est un peu la surprise pour ces élections qui de renouveler la moitié du Sénat et 151 députés, puisque depuis trois semaines, les instituts de sondage prédisaient une victoire des travaillistes, 51% contre les conservateurs. Et puis là, finalement, on a un jeu qui est complètement bouleversé. On va revenir sur les chiffres, mais comment est-ce qu'on explique un tel écart d'abord de prédiction?
Oui, je crois qu'on n'a pas en fait mesuré dans les détails circonscription par circonscription les bouleversements. Et les travaillistes ont perdu les élections dans l'état de Queensland, l'état du Nord, où il y a eu un basculement plutôt vers le parti libéral, le centre-droite, grâce justement aux deuxièmes préférences de l'extrême droite de deux partis, le United Australia Party et une partie One Nation. Je vous explique. En Australie, il y a un système avec une vote obligatoire, donc on ne peut pas expliquer le résultat par l'abstentionnisme. Il y a un taux de participation en général dans les élections de 95%. Et deuxièmement, vous avez une vote préférentielle ou une vote alternative où qui résout le problème de vote utile, en fait. On peut voter pour une partie d'extrême droite en première préférence, mais ensuite, les deuxièmes préférences sont redistribuées aux autres candidats, et c'est ça qui a aidé, en fait, les conservateurs dans l'état de Queensland. Dans cet état, le leader du United Australia Party de l'extrême droite a dépensé, je crois, 60 millions de dollars pour sa campagne, qui était une campagne négative contre les travaillistes. Et bien qu'au niveau national, il n'a que 3,9% des voix, dans un certain nombre de circonscriptions, ça a fait basculer le résultat en faveur du Parti libéral.
D'accord, donc il faut regarder le vote par État, voire par circonscription, d'une part. Est-ce que c'est ce que ça veut dire lorsque vous parlez d'un premier choix qui a été fait pour des partis plutôt nationalistes ou que vous dites extrême droite, lorsque Scott Morrison, le Premier ministre donc élu, a salué les Australiens silencieux? C'est ceux qui ne savaient pas s'ils allaient voter ou qui ne se déclarez pas?
Je crois que nous avons en Australie, comme pour le Brexit et comme pour l'élection de Donald Trump, et comme c'est arrivé actuellement en Europe, une montée d'un certain type de populisme, disons, un peu d'Australie blanche, en fait, dans ce cas. Et effectivement, Morrison a fait une très bonne campagne avec très peu, en fait, en exprimant très peu sa politique. Les travaillistes, au contraire, avec Bill Shorten, qui a tout le charisme d'un expert comptable en pompe funèbre, a fait une campagne très honnête, en fait. Ils ont annoncé qu'il y aura des augmentations d'impôts pour les gens les plus riches, une redistribution et une campagne axée sur l'écologie, en fait. Il faut vraiment faire face au changement climatique. Et en fait, Morrison se montrait quelqu'un avec beaucoup plus d'empathie pour le petit Australien, pour l'Australien moyen, ce qu'il appelle l'Australien silencieux. Et tandis que Shorten avait cette impression d'être l'apparatchik du parti, du parti progressiste, en fait, le parti progressiste de l'Australie, qui est la Victoria.
Oui, Shorten a souffert d'une mauvaise image et d'une campagne assez agressive des conservateurs qui, en gros, pointaient, disons, les hausses d'impôts qu'allait entraîner le programme, disons, à destination des classes populaires, c'était ça?
C'était ça, et c'est surtout en ce qui concerne les retraités, en fait, Les travaillistes voulaient attaquer un peu aux rentiers parce que les prix de l'immobilier en Australie ont flambé, donc ça devient impossible pour les premiers acquéreurs, les jeunes couples en Australie d'acheter leur maison. C'est un peu le rêve australien. Mais ça, c'est un peu un boomerang. On est quand même dans le pays de boomerang parce que le Parti libéral, les conservateurs ont lancé une campagne contre cet impôt, contre les retraités, en fait. Oui. C'est ça comme ils ont décrit la politique des travaillistes.
Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu non plus de sanctions, comme on aurait pu croire, des climato-sceptiques, puisqu'il y avait une campagne très axée sur les questions climatiques, après les canicules, après les incendies, tous les deux les plus importants depuis 100 ans, là, au début de l'année en Australie.
Il y a eu une vote sanction dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, dans la circonscription de Warringah. L'ancien Premier ministre Tony Abbott a été battu par un candidat indépendant. Il y a eu une grande campagne contre lui parce qu'il est climat-sceptique et contre son homophobie. Et donc il y a eu quand même dans la partie sud de l'Australie une vote sanction, en fait une vote disons contre les climat-sceptiques. Mais ce n'était pas suffisant en fait pour compenser le pète justement des voix dans le Queensland.
Bon, et maintenant alors 41% pour les conservateurs, 33% pour les travaillistes, 10% pour les verts, ça c'est pour le Parlement. Ça fait 78 sièges, à peine la majorité pour la Chambre des représentants à deux sièges près. Scott Morrison est confirmé donc, puisqu'il est arrivé l'année dernière, mais il va gouverner les mains entravées, dit-on.
Dans le Sénat, aucun parti a une majorité, et donc c'est les Verts qui ont 9 ou 10 sièges au sénateur qui vont jouer un peu le rôle charnière dans le Sénat. Donc il y aura des mains un peu liées, mais en même temps, je crois que les questions de changement climatique n'ont pas à disparaître. Je crois qu'il y a une prise de conscience, au moins dans la partie urbaine du pays, mais il faut faire face à ce défi sans donner l'impression qu'on va punir les petits gens. C'est ça tout l'enjeu. Et c'est quand même paradoxal que l'Australie, qui a tous les atouts, comme disaient les travaillistes, pour être le leader mondial dans les énergies renouvelables, traîne justement à cause du lobby du charbon, les grandes mines de charbon qui est un grand produit d'exploitation du pays, qui empêche justement un progrès dans sur ces questions.
Oui, et justement, c'était le directeur du Lowy Institute, Michael Fulilove, qui disait que cette réélection ou élection de Morrison allait lui donner une chance d'obtenir une sorte de nouveau départ pour sa politique étrangère, peut-être pour le positionnement aussi sur les questions climatiques de charbon. Est-ce que vous voyez ça possible, à la fois, disons, l'abandon de ce rôle de premier producteur de charbon et une clarification des positions vis-à-vis de la Chine et États-Unis?
Je crois qu'il y aura effectivement une clarification, parce qu'il y a quand même une contradiction que la Chine est le premier partenaire commercial du pays, tandis que le grand frère américain est le garant de sécurité du pays. Donc, n'importe lequel premier ministre, il aura à faire justement de ne pas faire s'entraîner à l'Australie dans cette guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis, et également peut-être de prendre un peu plus de distance par rapport au président Trump. Malheureusement, Morrison et Donald Trump sont un peu les frères, et c'est bien, c'est un peu le même type de populiste. Et ça risque justement, mais c'est là que le Sénat va jouer son rôle, et l'opposition, de modérer un peu ces tendances un peu trop pro-trumpistes.
Et avec effectivement peut-être un des prochains fronts sur la question climatique, et cette fameuse mine du groupe indien Adani dans le nord-est, dans le fameux Queensland, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas pour ce débriefing et ces explications aujourd'hui, David Camroux, je rappelle, chercheur aux séries de Sciences Po. Merci, bonne journée.
Bonne journée.